Gloire à Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Nous sommes dans la deuxième partie de notre prédication intitulée « La fraîcheur de l'Évangile ». La première fois, nous avons expliqué que beaucoup de personnes ont perdu la fraîcheur de l'Évangile. C'est devenu quelque chose de routinier pour eux. Ils vivent l'Évangile comme une sorte de religion, avec des rituels, avec dans une logique de système. Il n'y a plus la fraîcheur. Hier, il y a une sœur qui nous a donné le verset « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Et on a expliqué « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Ça veut dire que quand on chante, Dieu veut que chaque chant soit comme un nouveau chant. C'est-à-dire que notre élan soit comme un élan nouveau, que ce ne soit pas comme un chant qu'on connaît, même si c'est un chant qu'on connaît. Mais la Bible veut que ce soit des chants nouveaux. Donc à chaque fois que nous chantons, notre cœur soit comme si c'était la première fois. Avec joie, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et il y a des gens qui ont perdu la fraîcheur de l'Évangile. L'Évangile est quelque chose comme de vieux dans leur vie. Or, le Seigneur veut que l'Évangile soit quelque chose de frais, de puissant pour changer les gens, changer l'environnement dans lequel nous habitons, nous sommes. L'Évangile doit rayonner, c'est la lumière du monde. Mais beaucoup ont perdu la fraîcheur de l'Évangile. Et on avait expliqué qu'une des raisons, c'était que beaucoup ne sont pas convaincus du fait que c'est Dieu qui a créé tout. Parce qu'il y a les raisonnements du monde qui sont venus les désorienter, les déstabiliser. On avait affirmé avec force que c'est Dieu qui a tout créé et que lorsqu'on ne comprenait pas certaines choses, c'était dû à notre petitesse et non pas au fait que ça ne soit pas Dieu qui ait créé les choses. Dans notre petitesse, nous n'allons pas remettre en cause quand même la grandeur de la création. Dieu n'est pas obligé, comme c'est écrit dans le livre de Job, de tout nous expliquer. Mais nous, on n'explique pas tout à nos enfants. On n'explique pas tout à nos collaborateurs, à nos partenaires. Pourquoi nous voulons que Dieu nous explique tout pour qu'on soit convaincus? Dieu considère que l'évidence est là. C'est pourquoi quand on lui a demandé « Quel est ton nom ?» Moïse lui a demandé « Quel est ton nom ?» Il a dit « Je suis ». C'est évident, « Je suis ». Contentez-vous de réaliser que je suis là. Je ne veux pas, parce que dans le nom de quelqu'un, souvent, il y a tout ce qui le concerne. Son avenir, ses prérogatives, ses attributs. Et lui dit, moi, je suis. C'est-à-dire que tout homme est conscient dans son cœur que Dieu existe. Et la création témoigne de cela. Mais il n'y a pas toutes les explications. Mais l'évidence est là. Et c'est pourquoi il a dit, je suis. Et on avait expliqué que ce qui freinait aussi beaucoup de gens et qui apportait une sorte de fatigue dans leur évangile, dans l'évangile en eux, c'était le problème de malheur, le problème de difficulté. Et on avait pris l'exemple des gens qui montraient à Jésus, « Regarde, il y a une tour qui est tombée sur plusieurs personnes. » Et c'était une façon de dire à Jésus, « Mais comment Dieu peut permettre qu'une tour tombe sur des gens, c'est peut-être des gens innocents. » Jésus a dit, « Oh, ne vous en faites pas. Si vous ne vous repentez pas, vous aussi vous allez subir la même chose. » On a tendance, à cause de nos malheurs, à cause des malheurs qui nous entourent, à vouloir remettre en question l'existence de Dieu, en disant, « Mais si Dieu existait, comment il peut permettre de telles choses ?» Mais Dieu nous dit, ce n'est pas de sa faute et il n'a pas besoin de tout nous expliquer. Il nous dit, tout ça c'est à cause du mal. Il a dit, ce qui arrive là, les tours qui tombent, les guerres, les maladies, c'est à cause du mal. Et vous qui observez la chute des autres, vous qui observez les malheurs des autres, si vous ne vous repentez pas, les mêmes malheurs tomberont sur vous. Donc on a expliqué qu'on devait arrêter de chercher à tout expliquer, à tout justifier comme malheur, il faut que celui qui vit un malheur prenne conscience que ça peut lui arriver aussi à lui-même, parce que le mal est dans le monde, mais Dieu a donné la solution, c'est son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui reçoive le salut et aille au paradis. Donc arrêtons d'insister sur l'explication des malheurs, insistons plutôt sur la solution. Jésus est là. À quoi ça sert d'expliquer? Vous savez, vous allez chez les médecins. Si le médecin doit nous expliquer ce que nous avons en détail, ça va prendre des heures de cours. Tu as telle maladie, c'est dû à tel microbe. Ce microbe-là se développe de telle manière. Et il continue. Mais ça va faire 3 heures. Vous allez dire au médecin, mais moi, je suis venu pour la guérison. Je ne suis pas venu pour les explications de mes microbes. Je suis venu pour la guérison. Alors, nous passons notre temps dans les explications, alors que la guérison est là, possible par Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous perdons la fraîcheur de l'Évangile. Nous nous éloignons de la solution, nous nous intéressons aux débats, aux discussions vaines. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre de la croix. Que nous dit notre frère Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 ? Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul dit, quand je suis venu parmi vous, ce n'était pas avec une éloquence de ce monde, une grande sagesse, de longues explications. Je vous ai apporté Jésus. Et Jésus crucifié. Il dit au verset 3, « Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Il dit, quand je parlais, je n'ai pas utilisé des méthodes de philosophie compliquées. Vous savez, Paul vivait une époque, on voit ça dans Actes des Apôtres chapitre 17, il vivait une époque où il y avait des débats et des débats, des philosophies et des philosophies. Il dit, moi, quand je suis venu vous voir, je n'ai pas fait des débats et des débats de philosophie, je n'ai pas fait de longs discours, je vous ai parlé de Jésus tout simplement, mais Jésus crucifié à la croix, parce que c'est ça la clé de tout. Je me suis limité à ça. J'étais même faible. Vous savez, il y a des moments où Paul venait de se faire taper. Quelques heures après, il commençait à prêcher. Parfois avec des blessures, mais il devait exposer Jésus crucifié. Parce qu'il savait que c'était ça la solution pour l'humanité. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits en impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Paul dit, mon discours est un discours qui n'est pas lié à la sagesse de ce monde. C'est des sagesses qui vont venir à l'impuissance totale. Aujourd'hui, où est Einstein? Où est Socrate? Tous ces gens-là sont morts. Jean-Paul Sartre, leur sagesse est impuissante. Mais moi, je suis venu vous parler de Jésus. Jésus qui est mort à la croix, mais par sa mort à la croix, a vaincu la mort dans toute l'humanité afin qu'il y ait une résurrection pour tous ceux qui vont croire en Dieu. Tout simplement. Mais les gens vont venir avec des philosophies à plusieurs étages, des débats sans fin. C'est pourquoi, bien-aimés, beaucoup ont du mal dans l'évangélisation parce qu'on les entraîne dans des débats sans fin. Il faut être dans le centre. Le centre, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié. Il faut qu'on soit nous-mêmes centrés sur Jésus. Si on n'est pas centré sur Jésus, on va nous distraire. Il faut qu'on pose la question aux gens. Pourquoi Jésus a été crucifié? Les gens qui nous cherchent des débats, on leur pose cette question-là. Il faut qu'on soit dans le centre de l'Évangile. Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas une sagesse qui est liée à ce monde. Vous savez, dans ce monde, pour être fort, il faut faire des actes de puissance, battre les gens, dominer sur les gens. Mais l'Évangile, c'est quoi? La puissance est venue de la crucifixion de Jésus. La puissance est venue du rabaissement. C'est ça l'Évangile. Donc ce n'est pas une sagesse de ce monde. On nous enseigne par l'Évangile que c'est la mort de Jésus. C'est sa crucifixion qui est notre force et notre victoire. Donc les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre cela. Et ils préfèrent suivre les gens qui font des exploits. Comme ils ont suivi autrefois Samson, David qui a frappé Goliath. C'est ce qu'eux, ils veulent. Ils veulent un géant qui règle le problème. Mais nous, nous venons présenter Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Les gens se disent, mais de quelle utilité peut-il m'être puisqu'il est crucifié? Mais il a été crucifié justement pour être 100% utile pour toi. Mais ce n'est pas resté à la crucifixion. Le troisième jour, il est ressuscité, prouvant que sa crucifixion était une réussite. Jésus a été crucifié. Pourquoi? Il a été crucifié afin de nous montrer que le péché, premièrement, le péché, c'est quelque chose de grave aux yeux de Dieu. Mentir, voler, haïr, jalouser, tout ce qui est mal dans l'homme, résister à Dieu, ne pas croire en Dieu, tout ça c'est des péchés qui seront sanctionnés un jour. Et Dieu montre cela par la crucifixion de Jésus. Jésus, sa crucifixion, c'est le jugement de l'humanité. Jésus a pris le péché de l'humanité et a été crucifié pour montrer la colère de Dieu face à au péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tout est dans la croix de Jésus-Christ. Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus. Tout est en Jésus, mais pas seulement Jésus, mais l'œuvre de la croix. Comment expliquer que le Fils de Dieu se retrouve à la croix? Dites-moi, pourquoi? C'est le jugement de Dieu. Comment expliquer ça? Celui qui a dit à la tempête, « Silence, tais-toi !» Vous savez que Jésus, avant de se retrouver à la croix, à plusieurs reprises, on a voulu le tuer, mais les gens n'arrivaient même pas à le toucher. Un jour, dans le temple, il a renversé les tables, il a chassé les vendeurs. Il était seul, peut-être avec 12 apôtres, mais il a chassé une centaine de personnes. Mais on n'a même pas pu le toucher. Alors qu'on pouvait envoyer la garde, les soldats, mais on n'a même pas osé. Mais c'est celui-là même qui se retrouve à la croix. Pourquoi? Pour condamner le péché. Pourquoi? Pour condamner la chair humaine. La chair humaine est une chair de péché. La chair humaine nous entraîne à des mauvaises choses. Donc il fallait que cette chair soit crucifiée. Le jugement de Dieu existe. Il y a des gens qui négligent cette notion-là, qui vivent sans tenir compte de Dieu, qui vivent en disant « moi, moi, je ». Mais la croix de Jésus leur dit « attention, si moi, le Fils de Dieu ». C'est ce qu'il dit dans, je crois, Luc au chapitre 23. Il dit « si moi qui suis le bois vert, on me fait ça, qu'est-ce qu'on fera au bois sec ?» Tous ceux qui négligent le péché devraient, en regardant la croix, se poser des questions. Si on fait ça au Fils de Dieu, qu'est-ce qu'on fera à moi? Si on a fait cela au Fils de Dieu, c'était à cause du péché. Le péché est mauvais. Le péché détruit l'homme. Nous nous sommes offusqués que lorsque nous voyons l'expression du degré le plus grave du péché. Donc quand on voit Un enfant, on apprend qu'un enfant de 6 ans a été violé. Ah! On s'agite, on s'offusque. Quand on apprend qu'un papa a tué toute sa famille et s'est suicidé lui-même, on s'offusque. Mais ça, c'est des expressions. La réalité, c'est le mal. Et c'est ce même mal qui s'exprime par la jalousie. C'est ce même mal qui s'exprime par les petits vols. C'est ce même mal qui s'exprime par la haine. Et comme il s'est dit dans le monde, qui a volé un œuf volera un bœuf. Un bœuf. C'est ce qui se dit. Donc, ce petit mal qu'on néglige, c'est ça qui a conduit Jésus-Christ à la croix. Dieu veut nous dire, il y a un jugement qui arrive. Et la croix de Jésus, c'est l'avant-goût de ce jugement-là. Dieu a frappé son fils parce que son fils avait pris tous nos péchés sur lui. C'est ça l'évangile. Quand on discute avec les gens vont te dire « Oh, moi je suis musulman, moi je suis bouddhiste, moi je suis ceci, moi je suis catholique. » Mais pose-lui la question. Mais qu'est-ce qui est Jésus pour toi? C'est tout. Ce n'est pas la religion qui sauve. Qui a réglé ton problème de péché? C'est ça la question qu'il faut poser aux humains. Ton problème de péché, qui l'a réglé? Il va te dire « Mais... moi, je n'ai pas de péché. Ah bon? Mais pourquoi tu meurs? Ce qui est parfait ne meurt pas. Ce qui est parfait ne vieillit pas. Ce qui est parfait ne tombe pas malade. Toi, tu n'as pas de péché, mais un jour, tu vas mourir. Tu tombes malade, tu vieillis. Tu n'as pas l'âge, tu n'as pas le corps de tes 10 ans. Tu vieillis. Donc, il y a un principe mauvais en toi. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le péché. Mais tu dis, mais oui, mais je suis pardonné comme ça. Tu lui dis, non. Tu es pardonné comme ça par qui? En fonction de quoi? Oui, mais Dieu pardonne quand on demande pardon. Mais qui te dit que Dieu pardonne quand on demande pardon? Et la personne va patauger. Vous savez, il y en a même qui font beaucoup de bonnes choses. Ils aident les pauvres, ils aident les malades, ils aident les gens. Et ils se disent, je suis pardonné. Ah non! Parce que si tu étais pardonné, tu étais purifié par tes bonnes œuvres, Dieu n'aurait pas eu besoin d'amener son fils à la croix. Si Jésus a été à la croix, c'est parce que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Et moi j'ai dit à quelqu'un qui me disait, mais moi il m'a dit une chose, il m'a dit, je ne comprends pas que quelqu'un qui fait de bonnes choses se retrouve en enfer alors qu'il a fait de bonnes choses. Je lui dis, mais est-ce qu'en faisant ces bonnes choses-là, je lui dis, est-ce quand tu as le sida, tu commences à faire de bonnes choses, tu vas guérir du sida? Ah, il m'a dit non. Moi, j'ai dit, c'est la même chose. Quand tu as le sida, ce n'est pas parce que tu as donné 10 euros à un SDF, ce n'est pas parce que tu as hébergé un pauvre que ça va te guérir du sida. Si tu as le cancer, si tu commences à aider les pauvres, tu vas guérir du cancer? Il m'a dit non. Moi, j'ai dit c'est la même chose. On ne peut pas aller au paradis parce qu'on a fait de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne vont pas guérir le péché qui est en toi. Il y a une seule solution, c'est Jésus. Jésus a pris le péché qui était en toi. Il a mis sur lui. C'est comme quand on va chez le médecin. Au lieu que te donne le médicament, lui il dit, bon, je vais devenir comme un petit. Je vais prendre la taille d'un microbe. Je vais entrer en toi. Récupérer tous tes microbes et sortir avec ça. C'est ce que Jésus a fait. Il a récupéré tous les microbes de l'humanité. Il a mis sur lui. Et a été condamné parce que Dieu est contre les microbes de l'humanité, contre le péché. Et c'est lui qui a été condamné à notre place. C'est ça notre salut. Notre salut, ce n'est pas une religion. Mais quand on oublie ça, on va entrer dans des débats sans fin. Il faut manger de telle manière avec la main gauche. Il faut s'habiller de telle manière. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Mais parce qu'on a oublié que le centre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. C'est ça qui sauve. Tes bonnes œuvres ne te sauveront pas. C'est l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix qui sauve. Parce que c'est par cette œuvre-là que Dieu a pris le péché qui était en nous et a mis sur Jésus. Et il a été condamné à cause de cela. Ce qui fait que tous ceux qui ne croient pas en Jésus, tous ceux qui ne se sont pas laissés sauver par Jésus, répondront au jugement dernier. Parce qu'ils n'ont pas accepté de laisser leur péché en Jésus, chez Jésus. Ils répondront au jugement dernier et la croix. La crucifixion de Jésus, c'est un avant-goût de cela. Mais ça ne s'arrête pas là. La crucifixion de Jésus, c'est quoi? C'est aussi la crucifixion de la chair. Parce que malgré tout ce que nous connaissons, que Dieu interdit, nous avons du mal à faire le bien. Nous avons du mal. Alors Jésus, en étant crucifié à la croix, il a crucifié la chair. De sorte que quiconque croit que Jésus l'a fait, va expérimenter ça réellement. Bien sûr, ça suppose reconnaître tes faiblesses. Ça suppose reconnaître tes fautes. Et après dire, mais heureusement que Christ a été crucifié et il a crucifié la chair. C'est ce que notre frère Paul explique dans Galates 2:20. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand le diable t'embête pour te dire, mais tu es, il y a le péché en toi, tu dis, j'ai été crucifié avec Christ. Et c'est lui désormais qui va vivre en moi. Par la crucifixion de la chair, Jésus-Christ a rendu possible la résurrection. Il fallait que la chair meure pour qu'il y ait une nouvelle création. C'est ça notre force. C'est pourquoi Paul leur dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. C'est le centre de tout. Tout le reste, c'est des débats inutiles. C'est pourquoi les gens qui sont dans ces débats inutiles, ils perdent la fraîcheur de l'évangile. Ils sont plus heureux, ils sont plus contents. Parce que celui qui a compris l'évangile est content. Il est heureux. Il peut louer Dieu de 8h à 20h parce qu'il sait que le Seigneur l'a sauvé. Il est conscient. Quand il voit la croix de Jésus, il se rappelle ses propres péchés. Il a dit, ah, c'est à cause de moi qu'il a été crucifié. C'est à cause de moi qu'il a été jugé. Et il est heureux. Quand il regarde la croix de Jésus, il dit, ah, j'étais incapable de me sauver. C'est pourquoi il a pris ma place. Quand il voit la croix de Jésus, il dit, ah, ma chair est en train de me dire, fais le mal. Mais heureusement, Christ a été crucifié. Il a crucifié la chair. Et je suis ressuscité maintenant en lui. C'est pourquoi on appelle l'évangile la bonne nouvelle. Quand on oublie ces choses-là, on commence à polémiquer sur le parler en langue, sur les prophéties, sur les miracles. On commence à être distrait parce qu'on a oublié le centre de l'évangile. On commence à polémiquer sur les bénédictions. Qu'est-ce qui est écrit? On tourne la page, on va au chapitre 1er, verset 17. Paul est en train de répondre aux gens qui sont dans des débats inutiles. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Et ainsi de suite. Paul leur dit, mais tout ça, vous êtes dans des débats distrayants. Vous vous distrayez, vous êtes dans l'erreur. Chapitre 1er, verset 17. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Sans la sagesse de langage, nous n'allons pas nous organiser pour démontrer des choses. Tu sais qu'il y a des gens parfois qui veulent discuter avec nous. Il y a des gens qui s'organisent, qui se documentent. Non, tu te présentes là tranquillement. Bon, explique-moi, tu l'expliques. Tu vois, nous avons le mal en nous. C'est ça qui a fait que Jésus-Christ a eu pitié de nous à cause du jugement qui nous attendait. Il a été crucifié à la croix. C'est un cadeau que Dieu offre à tous pour être sauvé du mal qui est en nous. Parce que si on n'est pas sauvé du mal qui est en nous, on mourra dans ce mal et on ira dans le feu éternel. C'est ça l'évangile. Ah oui, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est Jésus qui est la solution? Tu lui dis, mais montre-moi quelqu'un qui a fait plus ou mieux que Jésus. Quelqu'un qui t'a aimé au point de donner sa vie pour toi. Il est où? Montre-moi ta solution à toi par rapport à ton péché. Qui enlève ton péché? Il va dire, mais mes sacrifices, mais ton sacrifice ne peut pas changer quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Seul Dieu peut enlever ton péché. Toi, tu ne peux pas. Est-ce que vous avez déjà vu un voleur ou bien un escroc innocenté tout seul? Il est au tribunal. Je suis innocent. Allez, je pars. On va bien l'attraper. Allez, quelques bastons et puis la prison. C'est le juge qui innocente les gens. Ce n'est pas toi-même. Donc tout ton raisonnement qui te fait croire que tu es innocent, c'est faux. Tu ne peux pas t'innocenter tout seul. C'est Dieu qui peut t'innocenter. Et Dieu nous innocente parce que Jésus-Christ a pris nos péchés à la croix. C'est ce qu'on explique aux gens, bien-aimés. Et on va nous entraîner dans des débats sans fin. Vous savez, j'aime beaucoup les gens qui n'ont pas goûté au débat sans fin et qui ont été sauvés par Jésus. Ils sont très simples. Quand on leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, mais Jésus m'a sauvé. Très simplement, la vidéo de Ali qu'on a vue, il a été sauvé à la Mecque. Quand il arrive chez lui, il revient chez lui en Turquie, il organise une fête avec les voisins. Et il est assis, et puis, à un moment donné, il fait « un, un ». Tout le monde se tait. Je vais vous raconter, j'étais parti à la Mecque, croyant prier Dieu, mais c'est là que Jésus, le Fils de Dieu, s'est révélé à moi. Et il m'a sauvé de mes péchés. Je suis une nouvelle personne maintenant. Il s'est arrêté là. Nous n'utilisons pas la sagesse humaine. Vouloir faire des complications pour convaincre les gens. Nous présentons l'évangile. Vous savez, il y a une autre phrase pour dire prêcher l'évangile, c'est proclamer l'évangile. On proclame quelque chose qui ne va pas se... C'est pas qui va se faire. Quand on dit on proclame quoi? Souvent on proclame les résultats, non? On dit on proclame les résultats des élections. Donc quand, proclamer l'évangile, dire, on dit ce qui s'est déjà fait. Jésus-Christ a vaincu. Il a pris mes péchés. Je suis libre. Et il s'est arrêté là. Les gens commençaient à dire, certains rigolaient, certains discutaient. Lui, il avait fini son discours. Et il retrouvait son sourire. C'est le sourire qui leur faisait face. Et une vie transformée. C'est cela, bien-aimés. Nous n'avons pas besoin de longs débats. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On a perdu la fraîcheur parce qu'on a négligé cela. On est entré dans des débats sans fin. Alors qu'est-ce que Paul dit au verset 17 de chapitre 1er? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Quand tu veux faire des démonstrations pour convaincre les gens, tu es en train de diminuer la puissance de la croix. Dieu te demande de présenter les choses telles que lui l'a faites. Il te demande pas de chercher des complications. Présente les choses telles que lui l'a faites. Il a envoyé son fils mourir à la croix. C'est comme ça qu'il a résolu le problème de l'humanité. C'est ce que toi tu dois dire. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. C'est une folie parce que les gens ne comprennent pas. Mais ah oui, mais il a été crucifié. Où est la victoire dans tout ça? C'est une folie pour eux parce que ces gens-là ont un raisonnement charnel lié à la puissance humaine, lié à ce qui épate les gens, lié à ce qui frappe les yeux. Mais nous qui avons compris ce qui s'est passé à la croix, pour nous, on est plusieurs fois heureux. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Jésus-Christ a crié à la croix, tout est accompli. C'est ça la fraîcheur de l'évangile. On est content. On dit, ah, je n'ai plus de dette vis-à-vis du diable. Je n'ai plus de dette vis-à-vis de Dieu. Mes dettes ont été payées à la croix. Jésus a effacé mes péchés. Et il est ressuscité le troisième jour. Ça montre que son opération a bien réussi. Je suis une nouvelle personne. Qui me condamnera? Jésus-Christ est avec moi. Il a pris mes péchés. Je vois beaucoup de gens passent leur temps à justifier qu'ils ne pêchent pas. Ah non, ah non. Mais un vrai chrétien va dire, quand on va dire, mais vous les chrétiens, vous faites ceci, vous faites cela, mais justement, c'est pourquoi on a choisi Jésus. J'ai choisi Jésus parce que je suis mauvais. Ah bon? Eh bien oui, c'est ça. Il m'a facilité la tâche, il a pris mes péchés. Et il y a un musulman qui m'a dit, mais c'est trop facile. Moi, je dis, mais c'est ça justement. Moi, je suis quelqu'un qui aime la facilité, j'ai choisi la facilité. Jésus-Christ est mort pour moi à la croix et il a pris mes péchés. Oh! Et comme ça, tu vas au ciel. Moi, j'ai dit, c'est à cause de ça que je vais au ciel. Il est resté là, il a dit, mais c'est trop facile. Moi, j'ai dit, c'est ça justement pourquoi j'ai choisi cette voie-là. Et toi, tu as choisi quoi? Il ne sait pas quoi dire. Voilà, parce qu'il se rend compte qu'il est dans la religion, il fait n'importe quoi, il fait des ablutions, il fait des trucs, mais qu'est-ce que l'eau va faire de ton avec ton péché? Tu fais des ablutions. L'eau, ça va faire quoi sur ton péché? L'eau ne lave même pas complètement ton corps. Mais ça va laver ton péché? Il y en a qui comptent sur les péchés des autres. Ils sont trop pécheurs, donc moi je suis bon. Tu te trompes. Tu as des microbes aussi. C'est pas parce que l'autre a des microbes plus graves. Il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui enlève tout. Jésus-Christ crucifié à la croix. C'est ça la fraîcheur de l'évangile. Et quand tu es là, Paul a dit, c'est une puissance pour nous. Romains 1, 16. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Parce qu'on n'a plus peur. Jésus, parce que ce qui nous rend faibles, c'est quoi? C'est le péché. C'est le mal. Mais quand tu sais que ton péché a été pris par quelqu'un d'autre, tu n'as plus peur. C'est fini. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Tu n'attends que ton jour arrive pour aller au ciel. C'est ce que nous annonce la croix. La croix nous annonce que après ça, c'est la résurrection et le ciel. On attend, c'est tout. Jésus a pris notre péché. Et on reste dedans. On sort de la religion, on s'attache à Jésus. C'est lui notre sauveur. Qui est ton sauveur? Il y a quelqu'un qui m'a dit en Suisse, moi je suis catholique, enfin bon, je ne comprends pas pourquoi vos chrétiens me jugent. Moi, je lui pose la question, tu tiens le mot catholique d'où? Ben, je ne sais pas, mais enfin, je suis catholique. Il m'a dit, oui, mais tu tiens ça d'où? Explique-moi comment le mot catholique te sauve. Mais non, je crois en Jésus. Ah, tu crois en Jésus? D'accord, donc tu as compris que c'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. Et ça, tu tiens ça d'où? Mais de la Bible. Mais quand tu dis que tu es catholique, ça tu tiens ça d'où? Mais des humains. Moi je dis, mais tu choisis quoi? Le langage? Là tu veux aller chez qui là? Mais je veux aller chez Dieu. Bon, tu choisis quoi? Le langage de Dieu ou le langage des humains? Il sait-tu? Je lui dis, mais moi tu vois quand même je suis noir. Hein? Je suis français, mais tu dois te douter que c'est venu après. Donc, je peux avoir deux passeports, français et l'autre de l'autre pays. Quand je veux venir en France, facilement, je vais utiliser quel passeport? Il dit, mais le passeport français. Alors, si tu veux aller vers Dieu, tu vas utiliser quel passeport? Le passeport de ton autre nationalité là que tu me cites? Ou le passeport que Dieu lui-même a fixé dans la Bible. Mais le passeport de Dieu m'a dit, voilà. C'est ça, bien-aimé. Mais la veille, il avait fait une discussion presque d'une heure avec les bien-aimés. Mais quand on a discuté, on a pris 5 minutes. À 5 à 10 minutes, il a dit, bon, d'accord. Il a fui et il est revenu. Il a pris le numéro de téléphone. Il s'est engagé désormais à lire la Bible. Parce qu'il faut être centré sur Jésus. Il faut être centré sur Jésus, ce n'est pas la religion. Et quand je lui ai dit, mais moi je ne suis ni protestant, parce qu'il me dit, vous les évangéliques, moi je dis, moi je ne suis pas évangélique. Je ne suis pas protestant, je ne suis pas tout ce que tu dis là. Moi je suis disciple de Jésus. Je prends le passeport que Dieu donne. Le passeport de Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas le nom d'une religion. Personne n'est mort pour toi à la croix. C'est Jésus. Ce n'est pas le nom d'un pasteur. C'est Jésus qui a été crucifié pour toi à la croix. Paul dit, quand je suis venu au milieu de vous, je voulais entendre seulement Jésus. J'entends des gens dire, mais dans votre groupe, dans ce... Non! C'est Jésus qui sauve. Es-tu avec Jésus? Jésus va te rassembler avec les gens qui sont de lui. C'est tout, ce n'est pas le nom de... Il va te rassembler avec les gens qui sont de lui. Un point, c'est tout. C'est lui qu'il faut suivre. C'est ça qui fait perdre la fraîcheur de l'évangile à beaucoup de personnes. Parce qu'ils ont oublié le centre. Et ils vont aller dans des débats sans fin qui ne produisent pas la vie en eux. L'apôtre dit... L'évangile est une folie pour les païens, pour les gens qui ne sont pas sauvés. Donc nous ne devons pas chercher à les convaincre par des stratégies. Nous devons juste présenter les choses et faire confiance que l'esprit qui nous a convaincus va les convaincre aussi. Comment vous pouvez expliquer qu'à la croix, deux personnes se sont converties? Le monsieur qui était crucifié avec Jésus, il s'est converti alors que Jésus est crucifié. Je pense que si nous, on avait vécu la même chose, beaucoup ne seraient pas convertis. Comment se confier en quelqu'un qui est à la croix? C'est l'Esprit qui a convaincu ce monsieur-là. Pourquoi l'Esprit l'a convaincu? Parce que lui, il s'est humilié. Il a reconnu que c'était lui qui était dans l'erreur. Il a reconnu cela. Donc, pour que Dieu te révèle qui est Jésus, il faut que tu reconnaisses tes erreurs. C'est pourquoi la Bible dit, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire ceux qui sont dans le péché, dans l'orgueil et refusent de reconnaître leurs erreurs. C'est pourquoi l'évangile, ils ne comprennent pas ça. Et parmi nous, la fraîcheur diminue parce que les gens oublient l'évangile. À cause du fait qu'ils veulent se défendre, rester dans leur position, faire leur vie. Et ils finissent par négliger le message simple de l'évangile qui est une puissance. C'est une puissance pour ceux qui s'abandonnent entre les mains. Et pour ceux qui en profitent tout simplement. C'est une puissance. Si tu en profites, ça devient une puissance pour toi. Mais si tu n'en profites pas, Dieu te donne Jésus. Au lieu d'être sauvé par Jésus, tu veux te sauver par toi-même. Par tes logiques, par tes raisonnements, par tes techniques, par tes arrangements. Tu perds la puissance de l'évangile. Tu perds la fraîcheur de l'évangile. C'est ça qui arrive. Nous lisons. On finit. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et moi, je dis même scandale et folie pour les faux chrétiens. Ils ne comprennent pas. Que nous soyons si simples que cela, que nous parlions de Jésus simplement, mais c'est lui la solution. Parce qu'ils ont pris de techniques de religion dans leur tête. Ils ont oublié que c'était Jésus la solution. Et à partir de là, la fraîcheur s'en est en allée. Ils sont plus capables de vivre l'évangile avec puissance parce que ils ont changé l'évangile. Nous devons revenir à l'œuvre de Christ à la croix. Comme on a dit, quand le Seigneur se laisse crucifier, il crucifie aussi la chair. Quelqu'un qui est vraiment converti en Christ, sa chair est crucifiée. En fait, beaucoup de prières que nous les faisons mal. Nous devrions prier que les gens se convertissent réellement. Nous devons prier que les gens laissent vraiment leur chair crucifiée comme Christ à la croix. Mais entrer dans des débats sur tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, tu fais cela, beaucoup de débats que nous faisons sont dus au fait que nous ne réalisons pas ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Quand Jésus entre chez Zachée, Zachée, il dit « Je donne tous mes biens aux pauvres. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et le reste, je rends aux gens que j'ai volés. » Ce faisant, il devient pauvre directement lui-même. Mais qui a amené cet homme à faire cela? C'est l'œuvre de la croix. Il a vu ça en avance. Il a compris. Ça, c'est le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, il marche à pied. Le Fils de Dieu est en train d'aller comme un agneau jusqu'à l'abattoir. Mais nous devons suivre comme lui. C'est tout, bien-aimé. Beaucoup n'ont pas compris l'évangile. Le Fils de Dieu lui-même est parti à la croix. Pourquoi toi, tu veux défendre ta chair? Pourquoi tu veux défendre tes biens? Pourquoi tu veux défendre les choses de la terre alors que le Fils de Dieu lui-même est parti à la croix? Quand on comprend ces choses-là, on se laisse. L'apôtre le dit dans 2 Corinthiens 5. Nous comprenons que si un est mort pour nous, pour tous, tous doivent mourir pour l'un. Si nous comprenons que le Fils de Dieu lui-même est mort pour nous, nous comprenons en même temps que nous sommes appelés nous aussi à mourir pour lui. Et mourir pour lui, ça veut dire accepter qu'il règne dans nos vies, accepter ce qu'il a accompli pour nous à la croix et vivre la résurrection avec lui. Et il y a des gens qui cherchent leur force dans les miracles. Comme on dit, les juifs cherchent les miracles. Mais c'est sans fin. Aujourd'hui, tu vas demander un miracle, demain deux. C'est comme ça qu'on a fait à Jésus. Il a passé son temps à faire des miracles. Mais on continue à lui en demander. Et un jour, il a dit, stop, je n'en fais plus. Voilà. C'est sans fin. Il y en a qui cherchent leur force dans les en se documentant. Ils lisent beaucoup de livres. Ils croient qu'en lisant les livres, comme quelqu'un qu'on a vu en Suisse, il a beaucoup de livres chez lui. Il a dit à chaque fois que je passe, je me dis, ah, si je pouvais tout lire. Là, certainement, il me manque certaines révélations. Donc, il est en train de chercher des révélations dans les livres qu'il lit, alors que la vraie révélation est à côté de lui, Jésus-Christ crucifié à la croix. Il passe son temps. Donc, il y en a qui pensent qu'en bouquinant, ils vont ressortir comme le prophète Jean-Baptiste. Non, bien-aimé, tu as beau bouquiner, tu vas sortir, les cheveux vont s'en aller, c'est tout ce qu'il y aura comme conséquence. Mais c'est celui qui s'humilie, qui comprend l'œuvre de la croix, quand il ressort une autre personne, comme notre frère Khalid d'Égypte, qui est un terroriste. Le jour où il a lu la Bible, il a compris que Jésus l'aimait. C'était un homme impoli vis-à-vis de sa maman qui criait sur toutes ses sœurs. Mais quand Jésus l'a visité, avec quelqu'un que tu détestes, mais il te visite, il dit « Je t'aime, tu es à moi. » Khalid accomplit l'amour de Dieu. Quand il se réveille, il va s'agenouiller devant sa maman. « Maman, pardon, je n'avais pas compris. » Maintenant, je sais que le Fils de Dieu, c'est Jésus. Ça, c'est la puissance de la croix. Vous savez, quand on dit l'œuvre de la croix, ce n'est pas de la théorie. C'est que Jésus à la croix a pris, vous savez, tout ce que le mal peut faire sur terre, il a pris sur lui. Il a pris le péché, il a pris tous les coups, il a pris ça. Et donc, quand quelqu'un a cru en Jésus, il a absorbé avec Jésus tout cela. De sorte qu'en réalité, quand les choses vont se passer, il sait que tout ça a été absorbé à la croix. Il devient une autre personne. Khalid dit, quand je suis sorti dans la rue, j'embrassais les clochards, j'embrassais tout le monde. Tout le monde était devenu beau. Parce qu'ils vivaient sous l'impulsion de l'œuvre de la croix. Ils ne jugeaient plus personne. Comment tu peux juger les gens alors que tu sais que Christ est mort pour eux? Ils voyaient les autres comme des prochains frères et sœurs. C'est ça la différence. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, tu commences à tomber dans l'assistance, dans la non-assistance à personne en danger. Pourquoi? Parce que quand le monsieur qui se prétendait catholique m'a dit, mais je crois en Jésus, moi je lui dis, ah ben puisque tu crois en Jésus, c'est bien. Ils m'ont dit, mais tu savais bien que sa foi n'était pas vraie. Pourquoi tu as dit c'est bien, tu étais prêt à t'en aller? Moi j'ai dit, mais quand Jésus, le monsieur qui lui a demandé, que faire pour aller au ciel? Jésus a dit, mais toi tu connais la loi, qu'est-ce qui est écrit? Ah, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Moi je leur ai dit, mais Jésus a dit quoi? Ben c'est bien, fais-la. Fais ça, c'est bon. On dit, mais j'imite mon Seigneur. Bien aimé, je dis, vous devez savoir que là où il y a l'évangile, il y a la puissance de la croix. Donc le Seigneur s'occupe de toucher le cœur, comme il a touché le voleur à la croix. Il ne faut pas vouloir convaincre. Jésus lui a dit, mais fais ça, c'est bon. Moi, je dis, ça, c'était la non-assistance à personne en danger. Moi, je dis, non. Il savait, il connaissait le cœur de cet homme. Il savait qu'il était perturbé. La preuve, quand lui l'a dit, fais cela, c'est bien, il est écrit, l'homme voulant se justifier. Donc, il a compris, quand on lui dit, mais fais ça, c'est bien, il n'était quand même pas tranquille. Parce qu'il savait dans son cœur que la manière, l'esprit l'avait déjà convaincu dans son cœur que la manière dont lui il faisait avec Dieu, ce n'était pas ça. Et le monsieur, quand je lui ai dit, mais puisque tu crois en Jésus, c'est bon. Ah oui, mais la discussion continue. Parce qu'il faut que l'esprit triture les gens. Et les gens demandent, mais c'est quoi l'évangile finalement? Vous savez, quand on voit des prédications dans la Bible, les gens prêchent. Ils ne disent pas forcément, convertissez-vous. Il y a des moments, ils le disent, mais il y a des moments, ils ne le disent pas. C'est les gens qui disent, mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ceux qui prêchent ont compris que l'œuvre de la croix, c'est déjà faite à la croix. Vous savez, quand on dit proclamer l'évangile, tu proclames quelque chose qui est déjà fait. C'est-à-dire, Jésus a déjà sauvé nos frères qui sont encore païens. Donc, quand on est au milieu d'eux, on sait que l'Esprit nous donne une puissance, on sait que c'est fait. Donc, même si la discussion finit en queue de poisson, je sais que c'est fait. Parfois, le Seigneur montre les yeux d'une personne, dans les yeux de la personne, on sait que c'est fini. Lui, il est déjà rentré. Même si de sa bouche, il va toujours dire non jusqu'au bout, nous, dans notre cœur, on sait qu'on est en paix. Parce que la puissance du Saint-Esprit a fait son œuvre. Parce que ce n'est pas notre affaire. Nous, nous sommes que des instruments. Le Messie a accompli déjà son œuvre à la croix, là où il est venu récupérer tous ses frères. Et il nous demande de comprendre cela, qu'il est venu récupérer tous ses frères et sœurs. C'est ce qui est écrit dans Luc 19, 10. Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais il les a sauvés où? À la croix. C'est là qu'il les récupérait tous. Maintenant, il nous demande d'aller concrétiser cela, comme il avait demandé à ses apôtres d'aller récupérer un âne. Vous savez, quand il leur a dit, vous allez trouver un âne. Prenez cet âne. Mais quand on vous demandera, mais qui vous autorise à prendre ça? Vous dites, le maître en a besoin. Mais Jésus savait déjà que son esprit a précédé pour convaincre les propriétaires de l'âne de laisser l'âne. Et quand ça s'est passé comme ça, ils ont dit, mais nous récupérons l'âne. Ils ont dit, mais pourquoi? Ils n'ont pas fait de grandes démonstrations. Ils ont dit, le maître en a besoin. On leur a dit, d'accord, vous prenez. Nous n'avons pas besoin de faire de grandes démonstrations. Nous disons aux gens devant, Jésus-Christ te cherche. Il veut te sauver. Ah oui, mais vous les... Mais non, 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 je ne vous parle pas de moi, je vous parle de Jésus. Qui est mort à la croix pour vos péchés. Alors, bien-aimés, on veut toujours continuer à vivre notre vie. Pourquoi continuer à vivre une vie de péché pour ceux qui sont encore non baptisé, pourquoi continuer à vivre comme ça alors que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix? Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi continuer à vivre seul dans le monde? Parce que sans Jésus, tu es seul dans le monde. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Nous lisons l'histoire d'une femme dans Marc 14. L'histoire de la fraîcheur de l'évangile. Marc 14. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Le Seigneur dit partout où l'évangile sera prêché, il faut qu'on parle de ce que cette femme a fait. Cette femme a mis beaucoup de parfum sur le Seigneur parce qu'elle voyait déjà sa mort future. Donc elle avait compris le mystère de la mort du Seigneur. Il avait compris que c'est cette mort-là qui nous sauvait. Alors, en reconnaissance, elle a pris tout le parfum, elle a mis sur lui. Et les gens ont dit, mais ce n'était pas nécessaire de mettre tout le parfum. Une goutte suffisait, c'est un parfum qui coûte cher. Le reste pouvait servir à nourrir les pauvres. Voilà les débats religieux. Quand on voit une personne consacrée à Jésus, beaucoup de gens sont dans des débats religieux. Mais oui, mais il est encore jeune. Il passe sa vie avec Dieu. Il est encore jeune. C'est une femme. Au lieu de se marier, elle passe sa vie avec Dieu. Les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ont, je parle des chrétiens, ils ont perdu la fraîcheur de l'évangile. Ils ne peuvent pas comprendre le bonheur que c'est de réaliser que le Fils de Dieu est mort pour toi à la croix. Quand tu as ce bonheur-là, tu ne penses qu'à une seule chose. Que ferai-je pour le Seigneur en retour de toutes ses bontés? Tu ne penses que même... Lui, il a fait ça pour moi. Maintenant, moi, je vais faire quoi pour lui? Il n'y a qu'une seule chose que je peux faire pour lui. Donner ma vie. C'est tout. C'est tout. Et quand les gens ne comprennent pas, tu leur dis, Jésus a été crucifié pour moi à la croix. Alors, en reconnaissance, je lui ai aussi donné ma vie. Comprenez-moi. Comprenez-moi. Voilà. Les gens vont dire, mais nous ne te comprenons pas. Tu vis que pour lui. Toi aussi, tu leur dis, comprenez-moi. Lui aussi, il a vécu que pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Est-ce que, bien-aimé, il y a des débats à faire? Non. Cette femme n'a pas fait de grands discours. Elle a mis beaucoup de parfums sur le Seigneur. Et quand les gens vont parler, vont te gifler, tu vas sourire. Les gens vont dire, mais on ne comprend pas. Quand tu vas être bon envers les méchants, on ne comprend pas. Tu vas leur dire aussi, quand moi j'étais méchant, Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. C'est pourquoi je fais la même chose. Il a habité ma vie désormais par sa résurrection. Je suis un homme nouveau. Cette femme-là était tellement dans la joie. Les gens qui ne comprennent pas, ce sont des gens qui ne sont pas convaincus de leurs péchés. Quand tu es convaincu de tes péchés, tu es convaincu du mal qu'il y a dans l'homme et que tu sais que Dieu, gratuitement, sans même t'informer, a par avance crucifié son fils à la croix, amené son fils à la croix. Dis mais non, moi aussi je donne ma vie pour le Seigneur. Cette femme a tout donné. Elle n'a pas réservé ce parfum pour elle ou pour faire des affaires. Elle a tout donné. Beaucoup ont perdu la fraîcheur de l'évangile parce qu'ils n'ont pas tout donné. Ils ont gardé des choses pour eux. C'est pourquoi ils ont perdu la fraîcheur de l'évangile. Le fleuve d'eau vive ne coule plus parce qu'ils ont donné une partie, ils ont gardé une partie. Cette femme a tout donné. Parce qu'il se disait, quel merveilleux sauveur. Quel merveilleux sauveur. Le Seigneur veut qu'on vive maintenant. La conséquence de l'œuvre de la croix, c'est la résurrection. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Bien-aimés, si nous ne retenons pas selon les termes de la Bible, nous perdrons la fraîcheur de l'évangile. C'est écrit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. C'est ça l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. C'est fini. Nous ne sommes plus condamnés. Maintenant, une nouvelle vie s'offre à nous par la résurrection. Jésus a réglé le problème du péché, non seulement en mourant à la croix, mais en ressuscitant, donc il crée une nouvelle personne, une nouvelle vie. C'est ça qui est merveilleux avec lui. C'est ça qu'il faut vivre avec lui. Et c'est ça l'invitation qu'il fait à tout homme. Il vient dire à tout homme, je frappe à ta porte. Est-ce que tu veux être sauvé du péché qui est en toi? Est-ce que tu veux être sauvé du mal qui est en toi? Il y a des gens qui disent, mais je ne sais pas quoi faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais non! Il faut juste dire oui à l'évangile, à l'aide que Jésus te propose. Il veut que tu profites de son œuvre à la croix et reçoives une vie nouvelle. C'est tout. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui te sauve. Tu ne te sauves pas toi-même. C'est lui qui te sauve. Et il t'appelle aujourd'hui. Je veux te sauver. C'est tout, bien-aimé. L'évangile, revenons à cela, à l'œuvre de la croix de Jésus. Seigneur, nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes dans la victoire. Parce qu'à la croix, tu as tout pris, Seigneur. Tu as tout payé à la croix. La mort a été vaincue, le péché a été vaincu. Nous pouvons désormais vivre une nouvelle vie par toi, Jésus. Nous sommes dans la victoire. Nous n'avons plus peur de l'avenir. Parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Et nous savons, Seigneur, que tu vas sauver nos frères qui sont encore dans le monde. Tu vas sauver nos sœurs. Tu vas agir parce que tu es venu pour cela, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Merci pour ton esprit qui convainc le cœur de s'abandonner à toi. Merci Jésus pour ta fidélité. Nous croyons que tu es là, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Merci Seigneur. Nous sommes heureux de te servir. Parce que nulle part ailleurs, on a vu un sauveur comme toi, Seigneur. Désormais, lorsque les gens vont nous condamner, vont nous attaquer, Seigneur, nous pouvons dire, Christ a pris nos péchés, Seigneur. Nous n'avons plus besoin de nous défendre. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour la victoire à la croix. Nous prions, Seigneur, que tu sauves encore le maximum ce matin par ton esprit. Au nom de Jésus, que ceux que tu cherchais depuis longtemps, que tu les amènes au salut total aujourd'hui. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.